Bonjour. Merci, Pasteur Chaleur. Merci pour l'opportunité de partager quelque chose avec vous. Parfois, ce n'est pas bon d'être à la fin, mais pour moi, c'est très bien parce que j'ai entendu tellement de bonnes choses que ça m'a inspiré. Chaque portion que j'ai entendue m'a inspiré. Donc, merci beaucoup. C'est une joie. Il n'y a pas d'autre mot que la joie pour exprimer ce que nous vivons tous ensemble pendant cette semaine et encore aujourd'hui. Des grands messages, une super vie, une super communion. C'est un privilège, vraiment, un grand privilège. Merci. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es pour nous. Même la meilleure vie n'a aucun sens sans toi. Tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas avec toi et pour toi et à travers toi, n'a aucun sens. Alors nous te remercions pour ta vie, pour le corps. Oui, le corps de Christ, c'est tellement extraordinaire. Et nous te remercions pour ce temps. Bénis ta parole maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous savez, des fois, quand on nous demande de faire quelque chose ou quand on veut faire quelque chose, parfois on nous demande de faire des choses à l'avance pour préparer ce qu'on va faire ensuite. Par exemple, si vous voulez faire un gâteau ou quelque chose de spécial, parfois, il faut allumer le four 20 minutes à l'avance à une certaine température et comme ça, vous préparez le four pour ce que vous allez faire. Si vous sautez cette partie-là, peut-être que le gâteau ne sera pas aussi bon que ce qu'il aurait pu être si vous aviez suivi les instructions. Je crois qu'à cause de nos faiblesses, parce qu'on est fragile et on est imparfait, on est faible, Dieu nous demande de considérer la vie de la même manière que quand on fait un gâteau, dans le sens où, oui, la joie du Seigneur, oui, on se réjouit toujours dans le Seigneur. Mais peut-être vous avez remarqué ça, et c'est pas très intelligent de le dire, mais Philippiens 3 arrive avant Philippiens 4. Vous savez ça. Si vous ne le saviez pas, grâce à Dieu, quelqu'un comme moi vous l'a dit. Et au chapitre 3, Paul dit que tout ce qui était pour lui un gain, il l'a compté comme une perte, comme des ordures. Et je crois que c'est une des choses que Dieu nous demande de considérer avant qu'on puisse se réjouir toujours dans le Seigneur. Parce que si on ne regarde pas à ces choses, à ces bonnes choses qui sont un gain pour nous, il y a beaucoup de choses qu'on compte comme un gain pour nous. Et je ne parle pas seulement d'argent ou de biens, ou d'une maison, ou d'une voiture, un compte en banque ou quoi que ce soit. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ça peut être juste ma perception des choses, ma culture, mon expérience. Ça peut être beaucoup de choses. Et Dieu a dit, avant de pouvoir vraiment te réjouir toujours dans le Seigneur, toujours, il y a trois parties. Se réjouir toujours dans le Seigneur. Avant de pouvoir faire ça, il faut que tu considères toute chose, toujours, comme une perte. Et je sais que ce n'est pas si facile de faire ça, mais on peut s'exercer tous les jours. Et par la foi, on peut juste faire un pas et dire, Seigneur, ce que j'aime, ce dont je crois avoir besoin, ce que j'aimerais faire, ce que je pense, si ce n'est pas ta volonté, aide-moi à considérer ces choses comme une perte, afin que je puisse te trouver toi. C'était la prière de Paul aussi. Afin de te trouver toi, afin de trouver Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ. Parce que, et c'est une autre chose à considérer, en Ézéchiel 1, vous avez cette vision qu'Ézéchiel a eue. Il a vu des roues, des grandes, des petites, et il lui a semblé que les petites étaient comme avalées par les grandes. Donc il y a deux dimensions dans notre vie, les petites et les grandes. Et dans le principe, quand on considère la joie, il y a deux dimensions à la joie. Les petites joies et les grandes joies. Il y a une petite liste de tout ce qui peut amener de la joie et il y a une grande liste. Et la grande liste, c'est Dieu lui-même. Et ma joie ne peut pas se trouver dans la petite liste. Même si pour un moment, ça m'a donné de la joie. Mais ensuite, ça part. Et il n'y a que quand la petite liste est incluse dans la grande qu'alors je peux toujours me réjouir de toute chose. Et je peux être reconnaissant en toute chose parce que je crois que la joie va de pair avec la reconnaissance. Pour toutes les choses, les petites choses, les grandes choses, même les choses difficiles qu'on ne comprend pas. Vous savez, en Afrique, les gens disent, ils ont une expression, ils disent, il y a une bénédiction dans la bénédiction. Ce qui veut dire, attention, tout n'est pas une bénédiction. Et on pourrait dire, il y a de la joie dans la joie. Il y a de l'amour dans l'amour. Et nous savons qu'en dehors de l'amour agapé, on ne peut pas aimer. On ne peut même pas être un vrai ami. Ce qui donne la vraie dimension à une amitié, c'est l'amour agapé. Ce qui donne sa vraie dimension à l'amour familial, c'est l'amour agapé. Donc on peut dire, oui, il y a de la joie dans la joie. Il y a deux dimensions, deux listes. À laquelle regardons-nous? Et qu'est-ce que nous cherchons? Où est-ce que nous cherchons l'objet de notre joie? Nous savons qu'en Dieu, nous avons toutes choses. Donc, oublions la petite liste. On a tout en Dieu. Toutes les raisons de se réjouir. Pourquoi est-ce si important que nous gardions les yeux uniquement sur la grande liste? Parce qu'elle est éternelle. Parce qu'elle est infinie. Parce qu'elle est parfaite. L'autre liste nous montre simplement des choses imparfaites, la plupart du temps, des choses limitées. Mais en Dieu, Ta miséricorde dure à toujours. Ta bonté est pour toujours. Ta grâce est infinie. Ta miséricorde dure à toujours. C'est extraordinaire pour moi quand je considère ma vie et la vie de tout le monde, de considérer qu'on est si petit, mais en même temps, seul le Dieu infini peut nous nourrir. On est tellement petit, on est juste pour un temps, mais en même temps, il n'y a que l'éternité qui peut remplir notre vie. Jacques a dit, en Jacques 1, verset 2, « Estimez-le comme une parfaite joie toutes les épreuves que vous traversez. » Et quand on est un jeune croyant, et même quand on n'est pas jeune, on continue à poser des questions à propos de la Bible. Pourquoi il dit ça? Comment est-ce que c'est possible de compter comme une parfaite joie toutes les difficultés, les tests et les tribulations, les mauvaises situations? Comment est-ce que c'est possible? C'est possible seulement si on regarde à la grande liste. Pour connaître Dieu, connaître son caractère, connaître ses promesses, savoir ce que dit la Bible, connaître sa nature. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas regarder au-delà de notre situation si on n'a pas une vision de qui est Dieu. On ne peut pas se réjouir. On ne peut se réjouir dans nos épreuves que si on sait, sans le savoir exactement, qu'il y a quelque chose d'éternel, d'infini, une vie qui nous attend. Vous savez, si vous savez que votre père vous attend de l'autre côté de la rue, et vous êtes un jeune garçon, et peut-être vous avez peur de ce côté de la rue, mais de l'autre côté, il n'y a personne d'autre que votre Père qui vous aime et qui vous attend. Et il a tout ce dont vous avez besoin. Alors vous pouvez vous réjouir dans la situation. Et si on peut se réjouir dans la situation, la mauvaise situation, les épreuves, les tests de notre vie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on peut toujours se réjouir. Parce que si on peut se réjouir dans la partie la plus difficile, dans le reste, dans la vie de tous les jours, ça va être tellement facile. On verra les petites choses de notre vie comme rien. Parce que Dieu nous a donné la capacité de voir au-delà de la situation et de se réjouir. Pas se réjouir de la situation. On n'est pas fou. Et on ne prétend pas que la situation n'existe pas. Beaucoup de gens, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils ne connaissent pas son caractère, ne connaissent pas sa nature, ils prétendent que la situation n'existe pas. Ils ont le cancer et ils disent « Non, non, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade. » Est-ce que vous pouvez juste vous taire et reconnaître les choses? Soyons des hommes et des femmes de la Bible, des hommes et des femmes de foi. Oui, je suis pauvre, mais le Seigneur est pour moi et je peux me réjouir. Même dans la pire situation de ma vie, je peux me réjouir parce que je connais Dieu. Je considère toute chose comme une perte, comme rien. Et je passe ma vie à apprendre à connaître celui qui peut mettre dans mon cœur une joie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, Pasteur Ben, ce matin, a prêché sur son sport préféré à regarder à la télé, c'est le rodéo. Et il a dit, on doit apprendre à rester sur la selle, à rester en selle. Et donc, il a dit à Pasteur James, quand l'arbre tombe sur ta voiture, reste assis sur la selle, n'abandonne pas. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin est très simple. Il y a quelques semaines, on a prêché sur ce même sujet. Et j'avais entendu ce message de la part d'un de nos pasteurs Greater Grace en Inde, qui s'appelle Pasteur Shaker. Il l'avait prêché le matin. Et j'ai prêché le même message une heure plus tard. Et l'Esprit l'a utilisé pour parler à mon cœur. Et je crois que ça peut aussi parler à votre cœur ce matin. Même si en général on ne reprêche pas les messages, mais ça peut arriver quand c'est un bon message. Et quand Dieu l'utilise pour nous parler par son esprit. Ce message parle de trois personnes. Et je pourrais faire un schéma à propos de deux d'entre eux. On a d'un côté du diagramme, on a les pharisiens. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aide là. Est-ce que c'est là-haut? J'ai un peu de mal à écrire là. Donc, les pharisiens vivent dans le temps. C'est le mot ici, temps. Et ils vivent dans des œuvres, un comportement, de la discipline. Ils croient que s'ils jeûnent 3 fois par semaine et que les semaines s'accumulent, alors leur caractère et leur nature va plaire à Dieu. Ils croient que s'ils gardent la loi pendant une période de temps, alors ça leur fait gagner la faveur de Dieu. C'est comme un escalier comme ça. Et on met Dieu là-haut. C'est très typique des gens dans toutes les religions. On adopte tous une méthode, un comportement, des standards par lesquels on vit. Et on pense pouvoir gagner notre chemin. On apprend ça à l'école, dans la famille. Si on se comporte bien, on gagne des récompenses. À l'école, si j'étudie correctement, je gagne des points. Et à la fin, j'ai un diplôme. Si au travail, j'ai un bon comportement, peut-être on va me donner une place de parking pour ma voiture. Et peut-être je vais même avoir un bureau avec une fenêtre. Et puis si je suis encore meilleur, je vais être augmenté. Dans l'armée, si je travaille bien, je peux monter dans la hiérarchie. Dans mon travail aussi, si je fais les choses correctement, je peux vraiment avoir du succès. Et ensuite, dans ma vie chrétienne, si j'obéis à la loi et aux règles et que j'apprends à vivre, alors je vais mériter de la faveur de la part des hommes et de la part de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent. Mais de l'autre côté du diagramme, on a une autre image. On a Dieu là-haut. Et je vais mettre là une femme. Et je vais mettre au milieu une croix. Et je vais mettre la femme là. Elle a des cheveux longs et elle a une robe. Elle est belle, n'est-ce pas? Ouvrez vos Bibles pour lire l'histoire en Luc 7, verset 36. Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Combien de gens y avait-il dans ce verset? Deux. Un pharisien et Jésus. Verset 37. Et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Combien de gens y avait dans la pièce? Trois. Combien de personnes sont en vous? Pensez à ça. Combien y a-t-il de personnes en moi? Christ est en moi. Ma vieille nature pécheresse est en moi. Mon homme nouveau est en moi. Je suis une nouvelle création. Le pécheur, je suis un pécheur. Et dans le pécheur qui est en moi, il y a aussi un pharisien. On peut dire, ces deux images déterminent votre mentalité en ce qui concerne la vie. Une partie de vous est un pharisien. Est-ce que vous avez déjà rencontré un athée qui soit un pharisien? C'est une bonne question, hein? J'ai rencontré un athée qui était un pharisien. Vous savez comment il était? C'était un athée. Je suis athée. Il n'y a pas de Dieu. Il a tellement d'assurance. Il est tellement fort, tellement intelligent, tellement bien éduqué. Il est tellement d'assurance. Et il se tient là. Non seulement le pharisien se trouve dans le monde religieux, mais il se trouve aussi dans le monde séculier. Il y a aussi des pharisiens dans le monde séculier. Et ils croient qu'ils ont raison. Et c'est un point très important à propos de cette pièce dans laquelle se trouvent trois personnes. Il y a une personne qui a raison. C'est le pharisien. Parce que ce système le fait se sentir très, très confiant. Il a un bon statut. Il a gagné un sens de confiance et d'autorité, d'assurance et d'orgueil. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Martha Stewart? Elle a construit une entreprise pour faire des travaux dans les maisons aux États-Unis. Elle est devenue très populaire, c'était un designer d'intérieur. Mais pourtant, elle a fait une erreur. Elle a triché avec les impôts. Et elle s'est fait prendre par les impôts et elle est allée en prison. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'elle a été capable de dire « J'ai eu tort. Je suis désolée. Pardonnez-moi. » Vous savez, les Américains, je l'ai dit l'autre jour, nous, on ne se soucie pas tant que quelqu'un fait une erreur, mais ce qu'on n'aime pas, c'est quand ils ne l'admettent pas, quand ils ne le confessent pas, quand ils ne disent pas « J'ai eu tort. » J'ai eu tort. Ce pharisien, dans l'image ici, il a du mal à dire « j'ai tort » ou « j'ai eu tort, s'il vous plaît, pardonnez-moi ». Pardonne-moi, c'est un gros mot pour lui. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Aie pitié de moi, j'ai tort. Pardonne-moi, je suis désolée, j'ai tort. Si vous n'avez pas ça dans votre vocabulaire, si vous ne dites pas « j'ai tort » ou « s'il te plaît, pardonne-moi », il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Et ça, c'est l'autre partie de l'histoire. C'est très important pour nous d'être capable de dire « j'ai tort, s'il te plaît, pardonne-moi ». Vous comprenez? Je peux le dire aux gens. Il y a quelque chose dans ces mots. Les gens n'aiment pas ça parce que leur système est à propos de « j'ai raison, je suis fort, j'ai du succès, je fais des progrès ». Mais ce n'est pas la vie. La vie est remplie d'erreurs. Et vous en êtes une. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui ça. La vie est remplie d'erreurs et toi, tu en es une. Verset suivant. La femme avait un vase d'albâtre plein de parfums et se tenant derrière à ses pieds et pleurant. J'ai l'impression qu'elle n'avait pas besoin qu'on la regarde. Elle ne pensait pas à elle-même. Elle n'avait pas besoin de se tenir devant lui. Elle ne voulait pas faire quelque chose de dramatique. Elle ne faisait pas ça sous les yeux des caméras de télé. Vous savez, quand les politiciens passent un coup de fil à l'aéroport à l'avance en demandant « est-ce que les caméras de télé sont là ?» Si elles sont là, on atterrit. Si elles ne sont pas là, on continue. Mais la vie est plus profonde que ça. Gloire à Dieu. Cette femme avait de l'amour. On a parlé de l'amour et du fait de grandir dans l'amour. Vous avez un amour naturel la première fois que vous êtes né, mais quand vous êtes né de nouveau, vous avez cette sorte d'amour, un amour lié à l'adoration. Là, je mets le mot adoration. C'est ce qui vous est arrivé quand vous êtes né de nouveau. Le pécheur a trouvé Christ. Le pécheur est devenu un adorateur. La personne qui avait tort a trouvé grâce, un esprit de grâce. La personne qui avait complètement tort, qui avait besoin de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Une économie complètement différente. Toute ma vie, j'ai eu à gagner ce que j'avais. Mais maintenant, j'ai trouvé grâce et ça me change. Je suis transformée par la grâce. Je grandis dans la grâce. J'ai des larmes qui me viennent aux yeux à cause de vous, Jésus. Regardez verset 38. Il dit « Et elle se mit à les arroser de ses larmes. » Et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers et les oignait avec le parfum. Est-ce qu'elle a pensé aux pharisiens? Elle s'en est pas occupée, elle s'en est pas souciée. Elle était dans sa maison, mais elle se souciait pas d'où elle était. Je me soucie pas d'où je suis. Je suis dans la présence d'un pharisien, mais je fais comme s'il n'était pas là, parce qu'il ne signifie rien pour moi. Son jugement, je m'en fiche. Ses paroles, ses opinions, son esprit, son attitude, ça ne signifie rien pour moi. Moi, je suis un adorateur. J'ai trouvé la grâce de Dieu. J'ai trouvé Christ. Non seulement je l'ai trouvé, mais je reste avec lui, je grandis en lui. J'apprends à le connaître. C'est un autre esprit. C'est un esprit d'amour et de joie. La partie suivante dit, et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme. Il parle de Jésus là. Il dit du mal de Jésus. Il se tient là et dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme. Et nous, on peut être là et on pourrait lui dire, si tu savais qui tu es, si tu savais qui tu es, tu ne sais même pas qui tu es. Il y a trois personnes que tu ne connais pas dans cette pièce. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui est Jésus et tu ne sais pas qui je suis. Tu es aveugle. Tu ne connais pas la vie. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un enfant. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un pécheur. Tu ne sais pas ce que c'est que l'Évangile. Tu es juste rempli de toi-même. Ça, c'est en moi. Je l'ai entendu parler en moi à propos de vous, à propos de Dieu, à propos de la Bible et à propos de cette vie. Je l'ai entendu dire des choses. Je sais ce qu'il pense. La bonne nouvelle, c'est que je suis suffisamment expérimenté pour savoir que je suis un pharisien par moment. Et puis je sais aussi ce que c'est que d'être un adorateur, une personne remplie de grâce et de l'esprit. Et quand je sais qui je suis, qui il est, alors c'est les deux qui on est tous les deux. Alors je suis très motivé par cela. Je suis motivé par lui. Je prends le vase d'albâtre et je dis, c'est rien, c'est pour toi. Je prends ma famille, mon enfant, mon entreprise, mon travail. Et c'est rien, c'est à toi, tu es Dieu, le Dieu de toute grâce. Tu es ma vie, ma nouvelle vie. Je veux que tes amis soient mes amis. Et je veux suivre ce que dit Jésus. Je veux être dans ton œuvre, être impliqué dans ce que tu es en train de faire. Et c'est tout. Et c'est beau. Regardez verset 39. Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Oh, on va faire ça. Ouh, c'est un pécheur. Il y a un pécheur dans l'église. Sécurité! Sécurité, il y a un pécheur dans l'église. On est là pour contrôler l'église et pour faire la police. On va chercher si on trouve un pécheur. Il y a un pécheur dans l'église. C'est une façon affreuse de vivre. On s'en ennuie très vite. Ça décourage, ça nous rend amers. On n'a aucune joie dans notre église. On est trop occupé à marcher comme ça en s'assurant qu'il n'y a pas de pécheurs autour. On s'assure que tout est contrôlé, raisonnable, et que tout est selon le standard. Parce que comme dans l'armée. Dans la maison, c'est comme ça. Dans mon travail, c'est comme ça. Et dans l'église, ça doit être comme ça aussi. Où est la joie? L'amour, la foi, la grâce, la vision, l'enthousiasme, la motivation. Où est la mission? Allons sur le champ missionnaire. Comment c'est possible? Cette femme, elle a des larmes aux yeux et elle se sert de ses cheveux. Elle a besoin de rien, elle a un cœur plein, plein de lui. Seigneur, je suis là. La mission, il dit, va avec tes larmes, va avec tes cheveux, avec ton vase d'albâtre. Je t'ai oint, je t'ai appelé. Tu as reçu une puissance, tu es capable. Je suis un Dieu de grâce et je t'envoie. C'est comme ça qu'on a vécu, par la grâce de Dieu, au cours des dernières années. Et c'est comme ça qu'on pense. Et on en est reconnaissant vraiment. Ok, pour terminer, ici, il est dit, Jésus répondant lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Quand Jésus connaît le nom d'un homme, c'est un bon indicateur. Quand il connaît le nom de quelqu'un, « Simon. » Vous savez, tous les pharisiens n'étaient pas des ennemis de Jésus. Beaucoup d'entre eux sont devenus des croyants en Jésus. Et je crois que c'est probablement l'un d'entre eux. Bien qu'ils aient eu cette façon de s'approcher de Dieu, ils étaient aussi capables d'apprendre et de trouver le salut par la foi en Christ et d'être nés de nouveau. Et le fait qu'il est dans sa maison signifie que peut-être il était quelque part ouvert à Christ. Le fait que Jésus l'appelle par son nom est aussi un indicateur. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc Jésus lui parle et le corrige en lui donnant une parabole. Verset 44. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. » Cette semaine, j'écoute toutes ces histoires qui touchent le cœur, des choses profondes qui se passent dans le monde entier, des histoires qui nous motivent, des cœurs de foi. Et la pièce est pleine de ces histoires. Notre semaine a été remplie de gens qui sont venus ici avec des histoires toutes simples à propos de leur vie de foi, de leur œuvre de foi, de leur œuvre de grâce. Et ça signifie beaucoup pour Dieu. Ça le touche. Tu ne m'as pas lavé les pieds, mais elle l'a fait. Tu ne t'es pas occupé de moi et tu ne me connais pas vraiment, mais elle si. C'est elle qui a gagné. Toi, tu ne gagnes pas. Mais Simon, je te parle. Parce que je veux que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes qui je suis. On a besoin d'avoir un régime de doctrine dans notre vie. On a besoin de l'Esprit de Dieu dans nos vies. On sert Christ. On oint ses pieds, on essuie ses pieds et on le sert. Et il le voit. Verset 45, « Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. » Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. Votre vie de foi est ointe. Votre vie de foi parle au cœur de Christ. Dieu le Père voit Christ en nous. Mais faites attention, parce qu'en nous, en vous, il y a aussi le pharisien. Et il ne dit pas « Je suis désolé, j'ai fait une erreur ». Il n'est pas humble, il n'est pas brisé. Mais quand vous l'êtes, et que vous servez, que vous vivez par la foi en lui, vous vivez et vous servez le Christ vivant. C'est pourquoi je te dis, verset 47, ses nombreux péchés sont pardonnés. Elle a gagné. Elle a gagné. Ses péchés, qui étaient nombreux, sont pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. L'amour, l'amour. L'amour, c'est ça. Si pendant une période de temps, vous perdez votre joie, vous perdez votre joie, vous perdez votre énergie, vous perdez votre cœur, vous vivez votre vie bien structurée et vous n'avez plus d'imagination, plus de cœur, vous n'avez aucune joie, vous n'avez plus d'amour, alors probablement le pharisien a pris le dessus en vous. C'est probablement lui qui vous conseille et c'est probablement lui qui est en contrôle dans votre vie. Ignorez-le. Soyez sérieux avec la grâce. Réalisez qui vous êtes. Soyez humble devant Dieu et devenez un adorateur de Dieu. Et alors votre joie reviendra. Et vous direz « Alléluia, merci Seigneur. Je veux ça dans mon esprit très profondément. Tu es le Créateur de l'univers. Tu t'es humilié pour venir ici me sauver. Pardonne-moi, restaure-moi. Scelle-moi, remplis-moi, oins-moi et utilise-moi. » C'est notre vie. Et ensuite, quand on se voit les uns les autres, c'est plus que juste s'embrasser. On s'embrasse. On fait ça souvent, en tout cas certains d'entre nous. Mais il y a plus que ça. C'est l'année prochaine, pendant que je ne te verrai pas, je garde ton nom à la mémoire, j'ai une photo de toi, je pense à toi et je me soucie de toi. Parce que le Christ qui s'est soucié de cette femme, c'est le Christ qui vit dans votre cœur. Et cet esprit de cette femme et de Christ, c'est le même esprit qui est dans l'Église. Quand nous ne nous voyons pas face à face, on n'est pas juge les uns des autres. Mais on dit juste « Jésus, Jésus aime, Jésus fait grâce » et on se soucie les uns des autres. Priez les uns pour les autres, édifiez-vous les uns les autres et ne vous jugez pas les uns les autres. C'est tout. C'est bon, hein? Gloire à Dieu. Amen. Priez avec moi, s'il vous plaît. Et une petite chose pratique avant que je prie. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « J'ai eu tort. » D'habitude, je n'ai pas tort, mais là, j'ai eu tort. Et je veux apprendre à dire « J'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Est-ce que vous pouvez vous entraîner à dire ça à votre voisin? C'est le cours numéro 1 du christianisme. « J'ai eu tort. J'ai tort. Je pourrais avoir tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Et quelle est la suite de ça? Quelle est la suite de ça? À propos, Judas Iscariote a dit ça, n'est-ce pas? Matthieu 27, il y a une repentance parfaite, mot par mot. Judas Iscariote s'est repenti parfaitement. J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent, il a rendu l'argent, il a fait sa confession, il a rendu l'argent, il s'est repenti, tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Qu'est-ce qu'il a manqué? Jésus. Il a manqué Jésus. J'ai tort, j'ai eu tort, mais j'ai trouvé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a pardonné. Judas n'avait pas Jésus-Christ, alors qu'il était la réponse pour lui. Et c'est la même chose pour nous. Amen. Ok, prions maintenant pour terminer. Père, on te remercie pour cette semaine extraordinaire, pour ces bons moments et pour ce message, tous les messages. On te prie pour tous ceux dans cette pièce qui ne sont pas encore venus à Jésus. Croyez en Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Qu'ils puissent te croire, Seigneur, de tout leur cœur. Venez à Jésus aujourd'hui. Vous pouvez faire ça simplement en disant dans votre cœur, en le croyant de tout votre cœur. Levez la main si vous voulez qu'on vous donne un livret pour que les conseillers viennent parler avec vous. Mais la chose la plus importante, c'est pour vous dans votre cœur de croire. Et un bon conseil, marchez par la foi en lui, apprenez de lui, apprenez de lui. Oui, au nom de Jésus. Et ensuite, si vous pouvez regarder, ayons un bel été. Amen. Ayons une attente de ce que Dieu va faire cet été. Il va nous aider, on va apprendre. Et on va être ce genre de personne dont on a entendu parler aujourd'hui. Levez-vous avec moi, s'il vous plaît. Et dites à votre voisin, « Je sais que tu as eu tort beaucoup plus souvent que tu ne le réalises, mais je te pardonne. Je te pardonne. » Je vous pardonne. Je vous pardonne. Ok, on a culte ce soir à 6h30. Passez une bonne journée. Père, bénis tous ceux qui vont voyager, tous ceux qui sont dans leurs voitures, les trains, les bus, partout. Tous ceux qui vont voyager de retour en Europe, en Asie du Sud-Est, partout. Partout où les gens vont aller, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.